Il y a eu, de la part de beaucoup de juifs qui étaient des personnes humaines militantes depuis le siècle dernier, un aller vers l'universalisme qui leur faisait quitter l'identité juive. Cela aboutit à des impasses catastrophiques, par exemple dans la ligne du Boulle, qui est la plus prestigieuse. Mais on assiste indéniablement, comme tu l'as dit, en France, c'est notable, en Amérique, ailleurs, et en particulier en Israël. Le milieu que tu désignes est assez ponctuel, mais il est important, à une recherche de l'identité juive au nom de l'universalisme. Et c'est un des exemples que tu as décrit. Bon, le point de friction était qu'effectivement, il y a une espèce, je cherche un terme neutre, je ne dirais pas de collusion, entre, alors laissons le mot de État de côté, entre les juifs vivants d'Israël, comme tu l'as décrit d'ailleurs, la Gouda en Pologne. Je ne voudrais pas employer le terme de parasite, mais après tout, une parenthèse serait importante. Nous avons été contraints par notre histoire à vivre pendant 2000 ans comme si, je dis bien comme si nous étions les parasites des nations, c'est ce que les nations disent lorsque elles utilisent cet arsenal d'argumentation antisémite. Et que certains d'entre nous, les Juifs, entraînés par cette inertie de l'habitude, sont conduits à être aussi parasites d'Israël, en Israël même d'ailleurs. Mais encore une fois, vécu sur le terrain, ça se vit comme ça. Et la dimension du fanatisme consiste à ne pas voir l'énorme irresponsabilité de jouer ce jeu dans une société aux prises avec tous les périls avec lesquels elle est aux prises. C'est bien évident. Mais tant que les responsables de l'Agudat Israël et des X sectes de plus en plus extrémistes sur leur droite, ou par en haut, ou par en bas, j'en sais rien, ne diront pas clairement qu'elles acceptent le fait historique que les sionistes appellent le sionisme, c'est-à-dire la résurgence de la société hébraïque du dedans de l'histoire du peuple juif dispersé, le péril reste entier. Et je crois que ce qui différencie les différentes sectes de plus en plus extrémistes, il y a une telle quantité depuis Meacharim plus, en passant par Meacharim moins, puis ça passe par Bet Vagan plus, et puis c'est Bet Vagan moins, ça arrive à Bnei Brak plus, et puis c'est Bnei Brak moins, et il y en a partout comme ça, c'est le refus au nom de la religion de ce qui est arrivé dans l'histoire de la nation. Mais c'est très intéressant, et psychologiquement et sociologiquement, de décrire cette recherche de Elie Bengal, par exemple, mais il n'est pas le seul. Bon, ça reste encore ponctuel. La plupart des Baalei Tshuva venant des milieux sionistes, gauchistes, donc anti-judaïsme, qui étaient déjudaïsés, recherchant leur identité juive après les coups de boutoir de la guerre des Six Jours, de la guerre de Kippour, de la guerre du Liban, etc., vont rejoindre les partis de l'antisionisme religieux. Et je connais très peu d'exceptions. Enfin, c'est le groupe qui rejoint l'enseignement du Rav Kook, le Machon Meir, le Gush Emunim. Mais il est bien évident que la grande majorité des Baalei Tshuva, c'est un phénomène psychologique à étudier comme tel, préfèrent l'extrémisme anti-sionisme par compensation de leur sionisme anti-juif. Je me répète un peu, mais je ne vois pas le moyen de dire les choses autrement. Et il y a là je pense que vous avez tout un certain nombre d'indications, d'analogies avec la société judéenne du temps du Deuxième Temple. Et moi, j'aurais plutôt la tendance à l'UCN dans les universités, beaucoup plus que dans les groupes de militants des kibbutzim. Et monsieur avait demandé une.
On a parlé de Rav Shach, qui a une grande autorité maintenant en Israël. Je lis ce jour-ci au Maariv qu'il a attaqué le rabbi de Lubavitch.
Tous les 6 mois à peu près.
Et dans une manière pas tellement. C'est arrivé ici maintenant. Pas très sympathique.
Alors, pas très
sympathique. Oui. Je pense que cette manque de responsabilité des personnalités, pas seulement dans le monde religieux, mais en général, C'est contre sa fonction contre l'État d'Israël comme tel.
Contre le peuple juif, je crois que c'est un phénomène de schisme à répétition.
C'est Machrivecha Mimcha Yitzu. J'ai l'impression qu'Israël passe une certaine période de ça. Par exemple, on dit que les jets de pierre de la jeunesse arabe contre les Israéliens, ils ont pris un exemple de Agudat Israël.
Écoutez, je vous dirais, là vous désignez un phénomène qui a été permanent dans l'histoire juive depuis l'origine, qui était hypertrophié au temps du deuxième temple, au temps du Beit Sheni, c'est le phénomène des sectes. Et le phénomène des sectes est un phénomène de schisme à répétition. Il y a dans la yeshiva de Ponovitch, qui est la yeshiva du Rav Shach, un schisme intérieur colossal entre les deux têtes de la yeshiva, qui est encore pire que ce qui sépare le Rav Shach du Rabbi de Lubavitch. Nous qui sommes à l'extérieur de ce milieu-là, nous sommes assez épouvantés de la manière dont ce schisme à répétition va jusqu'au... Mais dans tous les milieux, Haredim, comme on les appelle en général, qu'ils soient à Paris, qu'ils soient dans d'autres villes de France, qu'ils soient en Amérique, vous avez ce même phénomène, des sectes qui se haïssent cordialement les unes vis-à-vis des autres. Et c'est pour nous en tout cas le signe qu'ils ont tort, puisqu'ils ne s'aiment pas entre eux. Je ne sais pas si c'est clair.
C'est un char qui donne une map.
C'est un, comment il a dit,
c'est un char qui donne une map.
Il n'y a jamais de limite à la recherche de l'orthodoxie. Il y a une espèce de concours pour essayer d'être toujours plus que l'autre, pour prouver que l'on possède la vérité, qu'on l'applique. Et encore une fois, c'est toujours notre rabbi qui, au lieu de regarder sa propre personne, essayer de regarder les autres tout d'abord. En cela, il y a refus de l'universalisme, et c'est ce qui se passe.
Il me semble vraiment qu'historiquement, il faudra vérifier, parce que je me souviens de cette histoire, je l'avais entendu de la bouche, il y a 35 ans, de la bouche du Rav Abraham Epstein, je ne sais pas si tu te souviens de lui, je crois qu'il désignait le fondateur du Moussar, et que lorsqu'il était jeune, il voulait sauver le monde, et il s'était demandé où je commence. Je vais aller dans la ville la plus assimilée, Paris. Il est venu donc à Paris. Paris n'a rien pu faire. Puis de fil en aiguille, il est rentré chez lui, exactement comme tu as dit. Et je vais m'occuper de moi-même. Il y a une suite à cette histoire. Et comme il s'est bien occupé de lui-même, il a sauvé des millions de personnes, puisque le Moussard a sauvé.
J'ai lu l'histoire dans
Boubert.
Dans Boubert, mais les histoires chassidiques sont les histoires de tout le peuple juif, oui. Alors ça n'a pas grande importance.
Ça se trouve même en Inde, d'ailleurs. Et chez Boubert, en tout cas.
C'est vrai.
Eh bien, s'il y a d'autres questions, oui.
J'ai lu un article dans la République palestinienne au sujet des Haredim, où ils en ont parlé comme un peu d'un espoir à eux. C'est-à-dire qu'il se crée un consensus anti-sioniste de plus en plus important, et ils additionnaient les Arabes d'Israël, les Haredim, les gens de Meacharim, etc.
Et Oranim.
Oui, je voudrais tout de même faire une petite distinction. Je ne voudrais pas que le débat s'oriente sur le côté politique des choses, mais je voudrais refaire une mise au point. Il ne faut pas non plus associer cette ultra-orthodoxie avec le Rav Shach uniquement, parce que cette ultra-orthodoxie est composée de mouvements qui ne sont pas tous des mouvements lituaniens, le Rav Shach est un lituanien, mais qui sont des mouvements chassidiques. Vous faisiez allusion au mouvement Lubavitch, mais nous pourrions faire allusion au chassidim de Belz, par exemple. J'ai eu de nombreuses conversations avec des gens très proches du rabbi de Belz, et eux disaient la chose suivante, Kahana était alors extrême gauche. Kahana était alors extrême gauche, et il ne comprenait pas comment on pouvait laisser un arabe encore une demi-heure dans l'État d'Israël. Il fallait les exclure, c'était leur théorie. Et il disait, le plus mauvais des juifs, ce sont leurs mots, le plus mauvais des juifs est encore meilleur
que le meilleur des meilleurs. Que le meilleur des meilleurs.
Bon, et ceci pour dire que c'est bien qu'il n'adhère pas au sionisme dans sa couleur actuelle, carole lavande, bleu blanc, n'est-ce pas? Mais ils prétendent, et peut-être est-ce tout simplement un jeu politique, une tactique, que c'est l'État qui ne veut pas d'eux. Ils me disaient d'une façon absolument extraordinaire qu'ils étaient tous prêts à faire l'armée, mais que c'est l'armée d'Israël qui ne voulait pas d'eux, parce que ça créerait tellement de problèmes. J'étais un peu sceptique, je dois vous dire, en entendant ces propos. Mais il y avait tout de même une certaine bonne volonté. En tout cas, il n'y a pas le même refus de l'État. D'ailleurs, on le sent aujourd'hui au travers de l'évolution d'un des membres de la Knesset, qui est le Rav Shapira. Il y a une certaine évolution dans son propos qui le rapproche...
Qui précise, pas le Rav Shapira, qui est le grand rabbin d'Israël, mais un autre.
Non, le Rav Shapira, qui est membre du Parlement et représentant de la Goudat Israël au nom du Rabbi de Gour, pour préciser, à la Knesset. Et donc, ce Rav Shapira, aujourd'hui, adopte une terminologie beaucoup plus sioniste qu'il n'y a quelques années. Ça ne veut pas dire qu'il s'associe au sionisme tel qu'il est, bien entendu, loin de là. Mais il y a tout de même une certaine évolution. Je continue à être optimiste, vous voyez, ce soir.
Je pense que l'optimisme vient surtout de la connaissance phénoménologique profonde du peuple israélien. Parce que malgré tout, nous sommes un petit peu abstraits en désignant ces idéologies qui, je ne dirais pas qu'elles sont que marginales, mais qui sont très ponctuelles. Le peuple israélien se balade à travers tout cela, et il existe en tant que peuple. Et toutes les nuances sont possibles. On est obligé, en schématisant, de schématiser trop. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Et puis ensuite, nous... Oui, deux questions. Ken?
Voilà, je ne sais pas si je vais bien pouvoir les poser, mais comme Manitou le sait, comme j'ai ma maison à Jérusalem et que j'ai vécu 7 ans là-bas et que je parle hébreu, alors quand j'entends toutes ces discussions à l'égard des différents mouvements, moi je sais que j'ai une expérience vécue des Israéliens et je fais une différence énorme entre les gens qui sont nés là-bas, qui ont été des petits enfants là-bas, qui ont été à l'armée, et ceux qui sont arrivés plus tard, et même comme mes enfants, à l'âge où, de 10, 14 ans, ayant connu auparavant d'autres pays. Et je trouve qu'il y a une telle différence entre ces deux aspects du judaïsme que moi, j'ai rencontré beaucoup d'Israéliens, j'ai parlé avec eux, et j'ai senti qu'en eux, la Torah, la langue est complètement intégrée, et que ce sont des préoccupations qui sont pour eux complètement incroyables, et qui considèrent les choses d'une façon très très différente au niveau du pays et justement de ce qu'on disait du peuple. Et ça, je crois que c'est de ça qu'il faut parler, c'est l'avenir, c'est ceux qui ont maintenant 20 ans.
Et qui n'ont plus... C'est les Hébreux en question.
Ce sont les Hébreux, oui. Et je crois que c'est d'eux que vont naître quelque chose de nouveau. Pour moi, une discussion sur les rabbins qui sont à New York ou là, et qui parlent de ceci, du Talmud, c'est une question complètement dépassée.
Bon.
C'est très actuel.
Bien. Il y avait encore une autre question. Je voudrais, si vous permettez, avant de rendre la parole... au président et à l'orateur, ou à l'orateur et au président, d'abord vous dire que c'était pour nous un grand contentement ce soir de nous retrouver les trois. Ça nous rappelle notre jeunesse, le président de Rachi, le directeur des études du QEJ, etc. Et que c'est un sujet important qui a été traité ce soir. Il y a effectivement quelque chose de nouveau qui apparaît. Bon, alors, élaguons les petites mises au point ponctuel que nous avons eu, il y a effectivement quelque chose en mouvement et en gestation. Je vais me permettre, pour terminer, de reprendre une des remarques du début de Rosner. C'est cette artificielle de la séparation entre chilonim datim, tel que cela est vécu dans la majorité du peuple israélien. Et j'ajoute quand même cette remarque qui vient d'être dite. Les extrémismes sont d'importation en Israël. En particulier, on parle beaucoup de Kahana et du Kah. Il faut savoir que ça arrive d'Amérique et que c'est une sorte de greffe mal implantée, mais ça attire, pour des raisons extraordinairement diverses et variées, et énormément de mécontentement et de révolte qui se greffent sur le programme de Cannes. Il n'est pas pour rien qu'il a un tel impact dans une certaine jeunesse. En tout cas, ça ne fait pas partie du paysage loyal d'Israël, si je veux dire, comme beaucoup d'autres extrémismes périphériques. C'est important qu'on entende cela dans la diaspora. Je reviens à ce que disait Claude. Un Israélien du terroir ressent cela comme une greffe étrangère qui ne prendra jamais. C'est aussi néfaste, si vous voulez, du point de vue de cet implant étranger, que l'implantation de la drogue en milieu israélien. C'est aussi arrivé d'Amérique. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe, comme beaucoup de choses américaines existent en Amérique. Ça aurait pu venir d'Autriche, d'ailleurs. Je n'ai rien vis-à-vis de l'Amérique en particulier. C'est un phénomène postérieur à l'identité de l'Israélien surgi du sol qu'il avait fécondé dans la génération précédente. Alors je me permets de rappeler quelque chose que vous avez peut-être entendu à propos de Datim et Chilonim. La première fois que j'ai eu à me confronter avec cet extraordinairement difficile problème de sémantique, comment exprimer ce que l'on veut dire, tout le monde comprend, mais les mots sont faux, les Datim, les Chilonim. J'ai pensé à ce verset qui définit le juste comme le palmier, parce qu'il y a une Mishnah dans le Talmud qui dit Kol Israël Yishlaim Chelek La'olam Haba Shenehemar Ve'amer Kulam Tzadikim, et ton peuple c'est tous des Tzadikim. Et bon, ça s'étudie. Et j'ai pas cité Bels. Et le verset des psaumes dit Tzadik Katamar Ifrah. Alors vous savez qu'il y a deux sortes de palmiers. Il y a le palmier Dati et le palmier Lodati. Mais c'est des palmiers, c'est ce que je voulais dire. C'est bien.
Je me souviens de demander, vous ne pensez pas qu'en Israël manque maintenant un Rav Kook qui soit comme un symbole qui a aussi réunir vraiment, tenir le gauche avec le droite ensemble?
À qui le dites-vous?
Oui.
Oui.
L'objet de sa recherche est de donner aux Juifs qui ont perdu leur patrimoine, leur identité, de retrouver cette identité. Et pour retrouver cette identité, il fait un retour aux sources.
À Bnei Brak.
À Bnei Brak.
On enchaîne.
Et c'est tout simple. Et cette identité doit correspondre en même temps à une relation avec la problématique moderne d'Israël, à savoir le monde arabe, et en cela rejoindre une certaine universalité. C'est-à-dire que le judaïsme tel qu'il le conçoit doit pouvoir associer à cet État d'Israël des minorités et des groupes importants qui sont fondamentalement différents. Et je voudrais rajouter quelques éléments à ce que vous avez dit. Effectivement, il existe une différence fondamentale entre les gens du terroir et les autres. Mais je crois que lorsque vous dites ça, vous faites allusion à une certaine partie de la population israélienne qui est née sur place et qui a été en partie coupée du monde occidental, et qui, à ce moment-là, je ne sais pas si c'est vraiment du monde occidental. Je ne crois pas que ce soit une coupure du monde occidental. J'ai plutôt une coupure avec le monde juif qu'avec le monde occidental. Et qui s'attache à ce terroir, mais sans en comprendre la signification. Je ne crois pas, non. Voyez-vous, j'ai l'occasion de rencontrer énormément de ces jeunes, justement, de 20 ans, du terroir. Et ils sont très désorientés quand on leur montre que, finalement, leur identité, qu'ils estiment extrêmement facile à comprendre, claire, nette, n'est pas du tout celle qu'ils imaginent, mais est fonction de très nombreux paradoxes, du moins dans leur pensée. Surgit pour eux un nouveau monde qu'ils ne connaissaient pas. N'oubliez pas que dans l'école générale en Israël, lorsqu'on vous commente la Bible, on ne vous la commente pas à la lueur de la pensée juive selon Manitou ou selon le Rav Kook ou selon... On vous la commente comme un livre d'histoire dans le meilleur des cas. Mais généralement, on vous la commente comme ce que l'on ne doit pas faire. Comme quelque chose qui est extrêmement loin de nous, et que l'on étudie parce que les programmes nous obligent à le faire. Mais si ça dépendait de nous, enseignants, on vous enseignerait bien autre chose. Ce bien autre chose, d'ailleurs, n'est pas tellement défini, parce que Voltaire et Rousseau n'ont pas tellement pignon sur rue non plus. Alors, il y a toute une problématique de l'enseignement actuellement en Israël. Il y a un certain nombre de tentatives. Ça va, pour l'étayer, il y a quelques semaines, il y a eu une proposition du ministère de l'Éducation nationale d'enseigner dans les écoles juives en Israël des morceaux de liturgie. Non pas pour que les gens aillent à la synagogue tous les matins, mais simplement comme un Français doit connaître Voltaire et Rousseau, un Israélien doit connaître un peu de sa culture. Le lendemain matin, un groupe de parents s'est levé, s'est constitué, nouvelle association opposée à cette Chazara Bitshuva. Il s'agissait finalement, selon ses parents, d'un lavage de cerveau, d'entraîner les jeunes juifs vers des notions complètement archaïques. Or, en cela, finalement, ce sont des gens qui n'ont rien compris, qui ne comprennent pas ce qu'ils font en Israël. Il y a, à ce niveau-là, et nous le constatons, une baisse de motivation. C'est un des phénomènes qui alimente la Yerida, l'abandon d'Israël. Et, d'autre part, ces gens du terroir sont finalement... il ne faut pas généraliser, parce que vous avez des sociétés qui sont en général bien moins cultivés sur le plan occidental du terme, mais qui sont beaucoup plus rattachés à la tradition juive et aux faits juifs, sans avoir passé par l'une, d'ailleurs, sans contact avec le monde universitaire. C'est un fait qui est très courant à l'université, c'est ça. Et qui ne connaissent pas cette problématique, n'est-ce pas ? Et qui, pour eux, il est évident, même s'ils ne portent pas cette kippa, même s'ils n'ont pas cette... s'ils ne pratiquent pas intensément la tradition juive, sont profondément liés à cette tradition juive. Et peut-être, pour terminer mon propos, je dirai encore un mot là-dessus. Je crois que dans la grande majorité, si aujourd'hui on proposait aux Israéliens de se marier civilement, et si on faisait un référendum, les trois quarts de la population refuseraient. Parce que cela constitue pour eux la condition sine qua non de leur perpétuation en tant que juifs, et non pas seulement en tant qu'israéliens.
Bien, s'il n'y a plus de questions, nous allons nous arrêter là. Et avant de nous séparer, je voudrais vous rappeler que ce séminaire se prolonge jusqu'à vendredi. Tous les matins avec les études de texte avec Manitou et à 10h30. Et demain soir avec une conférence du rabbin Gilles Bernheim sur l'universalisme dans la pensée traditionnelle juive et dans la pensée juive contemporaine. Et jeudi soir, une conférence de Robert Misrari sur bonheur juif et messianisme juif.
Bonheur universel.
Chazak u baruch.
Top.
Merci bien.